France Inter.
Avec Leïla Gabon-Boudali, avec Camille Lavabre, Marion Jean, Bruno Pecky, Tanguy Pastureau,
bonjour. Bonjour Camille.
Et nos invités Michel Simès et Philippe
Bonjour. Bonjour. Leïla Gabour et Nagui.
Ravi de vous accueillir, Philippe et Michel, pour une pièce dont nous allons parler jusqu'à midi et demi. Comment allez-vous, Michel?
Très très bien. Enfin, beaucoup mieux.
que
quand j'ai commencé la pièce.
Bah oui, j'imagine. C'est ça.
Plus détendu, ouais. On va dire. Philippe, lui, n'a jamais douté des qualités de Michel dans le rôle.
À aucun moment.
Même là aujourd'hui.
Même encore
on
aujourd'hui.
On sent les sous-entendus de Nagui.
Non, je pose des questions, monsieur.
Bah, sinon, j'y serais pas allé, monsieur Nagui.
Je ne sais pas.
Bah, je vous le dis.
Très bien.
Beaucoup d'incertitudes autour de cette femme.
Non.
Vous avez dit, il est. Je sais qu'il est fait pour jouer au théâtre.
Oui, enfin, je ne sais pas s'il était fait pour jouer au théâtre. En tout cas, il était fait pour jouer.
Donc, il n'était pas fait pour la médecine.
Il était vraiment. Enfin, si. Parce que en ce moment, il y a deux, trois malades sur scène. Il est bien content. Ils sont bien contents de l'avoir sur scène.
On va en parler. Ça s'appelle Secret Médical. Cette pièce qui a commencé là, il y a à peine une semaine.
C'était la 15e hier.
Petit tour de table sur des secrets. Avez-vous donné un secret à quelqu'un et qui vous a trahi, qui finalement n'a pas respecté le secret?
Livré.
Livré le secret, très bien. Emma, bonjour.
Pas ma connaissance. Non, pas. Mais moi, je sais que moi, quand j'étais petite.
Elle a fait un AVC en direct. Heureusement, il y a
Philippe Lelièvre. Je révélais les secrets, par contre. Quand j'étais petite, mon papa, il arrêtait de me confier des secrets parce qu'à chaque fois, il me mettait dans la boucle pour organiser des anniversaires surprises pour ma maman.
Ah oui.
Et je liquais tout, quoi. Toutes les infos.
Donc, Camille, est-ce que tu as déjà dit et donné un secret à quelqu'un et t'as un peu...
Là, de mémoire, je pense plus à l'inverse. C'est-à-dire, j'ai reproché à un ami de ne pas m'avoir révélé un secret. Voilà, qu'il savait dans mon dos et voilà, qui ne m'a pas dit
il a tenu
pour
ça...
me protéger.
Bah oui.
Non.
C'est pas ouf. C'est un
adultère. C'était un peu cet ordre-là. Voilà.
C'était une mise en examen.
Il y a eu un nom.
Bruno.
Non, je pense dans ma tendre enfance, des petits secrets entre camarades de classe en primaire, quoi. C'était pas longtemps.
Tendre enfance.
T'es trop mignon.
Non, aujourd'hui, je pense pas. Je sais pas si ça veut dire que j'ai pas d'amis.
Est-ce que tu gardes les secrets justement, ou est-ce que tu fais un tri?
Non, je garde assez bien.
Tu les gardes bien. Leïla.
Je confie rarement des secrets. En fait, comme ça, je suis sûre que je suis tranquille.
Ouais, c'est un vrai secret.
Non, mais...
Si personne n'est au courant, ça restera un vrai secret.
Oui, non, mais si, ton compagnon, ta compagne, des gens très très proches, après, j'essaie de pas trop raconter. Parce que...
C'est-à-dire que tu commences jamais une phrase par « je vais te dire un truc, mais ne le dis pas ».
Non.
Jamais.
Non, parce que si
tu peux le dire.
Non, soit tu peux le dire, soit tu dis pas. Voilà, comme ça, t'es tranquille.
D'accord, ok. Daniel,
moi, on peut me confier des secrets, je dis rien. C'est pas par
tu les oublies.
Manque de trahison, j'oublie tout. J'oublie tellement.
Tanguy,
Moi, c'est beaucoup des gens de l'équipe qui me disent des trucs un peu dégueulasses les uns sur les autres. Je ne dis rien.
Ouais, c'est ça.
Mauvaise ambiance.
Au-delà, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a trahi un secret, ou à l'inverse, toi qui n'aimes pas en avoir?
J'ai tendance à pas trop balancer. Je suis comme Leïla. Je me dis, puis il y a une forme de superstition en disant je dis quelque chose qui compte pour moi, ça risque de rater, pas se réaliser, etc. Donc,
alors, moi, je sais garder des secrets, mais il m'est arrivé d'en dire à des potes en presque en...
Sans faire exprès ?
Non, en disant, je vais dire un truc, tu le répètes pas. Et non seulement ils ont répété, mais j'ai la personne qui était concernée par la répétition ou la connaissance du secret qui m'a clashé après derrière. Et après, tu t'en veux, c'est-à-dire tu dis, tu ne peux pas faire confiance à cette personne. Et pourtant, c'est un ami. Et vous, dans la vie, Philippe, est-ce que vous avez déjà eu des secrets qui sont revenus de plein fouet?
Je suis un réceptacle à secrets. J'ai beaucoup de secrets. Je suis un
tu
peu comme les
de paroles.
Je n'en donne pas beaucoup, mais non, je dis rien.
Non, que vous ne disiez rien sur une chose.
Je
si quelqu'un
rien.
Vient vous voir en disant je vais te dire
je
quelque
répète
chose.
Pas. Ouais. Okay. Ouais. J'adore ça. J'adore
savoir et pas répéter.
Ouais,
attends.
Michel.
Moi, je crois que j'ai été complètement déformé par le secret médical, par le respect du secret médical, ce qui fait que je suis une tombe dans les deux sens.
Je peux confirmer, parce que j'ai vu la pièce, ça se voit, vous n'avez pas répété.
Ouais.
Trop facile. Justement, tout est autour du secret médical.
Et c'est ça qui est drôle. Il mérite pas, Michel. Je le défends un peu. Regarde, Michel, c'est un ancien de la bande originale. C'est un camarade qu'on
merci
retrouve.
Merci, Leïla. Enfin, mais d'abord, je ne viens que pour Leïla.
Il aime les vannes. Tu vois qu'il aime les vannes. secret médical. Donc, on en parle jusqu'à midi et demi. D'abord, mais voici Hold de la femme de Michel. Oui.
Je suis fan de Philippe Lelièvre. Vous recevoir ici pour moi, c'est comme un rêve. Le prof de théâtre de la Star Academy et moi prof de flûte au collège, c'est dingue ce qui nous unit. Je suis fan de Michel Simès. Mais le docteur qui fait ses prescriptions par SMS. J'aimais tellement les otorhinos quand j'étais enfant. Je croyais que c'était des voitures avec une corne à l'avant. Et vous êtes là ensemble pour secret médical. C'est pour moi le plus gros secret, c'est dans la carte vitale. Comment ça marche, je veux qu'il faut tout le temps donner son adresse. Et pire si tu l'oublies, là c'est le début du stress. 3, 4. Et je vous demande d'accueillir avec moi les deux bouts sur le zinc, s'il vous plaît.
C'est un peu une déclaration que tu te fais car il est temps, je crois, yadada. J'ai pas ma carte vitale, c'est con, y a le papier orange pour ça, yadada, yadada, yadada. Je suis vert, tu me le tends, va falloir que je l'envoie. Mais 25 euros pour l'instant, je te les donne, ils sont pour toi. Du reste, on en reparlera. Je suis pas malade, je suis passé là. Déposer un CV chez toi. Pour vivre avec toi, yada, yada, la, 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 la. Tu es mon chez moi, yada, yada, la, 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 la. Mon premier et mon second choix, yada, la, 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 la. Mon rêve d'absolu qui ne tarit pas. Nagui et Leïla, la, 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 la. Venu chanter ça. Sont là. J'aime les lundis matins comme ça.
Super production de l'AF. Alors, debout sur le zinc.
Cédric, attends, oui, Cédric, présenté, Thomas, pardon. Simon, Romain, Olivier, j'ai oublié qui. Parce que j'ai essayé de citer.
Il en reste 13, Nagui.
J'ai dit Olivier, Romain, Simon, Thomas, Cédric.
Cédric et Olivier.
Voilà, parfait.
Nouvel album, Mémoire électrique, en tournée dans toute la France. À La Cigale, à Paris, le 14 février, à Lille, le 13 mars, à Bordeaux, le 22 avril. Toutes les dates sur le site dslz.org et Hold de l'AF, ce grand patron. Le 1er avril, aux Folies Bergères.
Merci, merci Michel. Bravo, bravo, bravo. Gros budget pour vous accueillir, Philippe et Michel.
Merci. Hein.
Gros Qu'est-ce qu'on va dire aux autres invités?
Eh bien, on va leur dire la vérité. Alors, comment est née cette aventure, Philippe, Michel? Qui a contacté l'autre d'abord pour travailler alors, ensemble? C'est au théâtre, j'ai tout dit, sauf le théâtre Saint-Georges, quand même, c'est important.
Et en fait, au départ, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose sur la façon dont les médecins se parlent entre eux des patients. Normalement, le secret médical, le code de déontologie, nous interdit de parler d'un patient si c'est pas dans l'intérêt du patient. J'ai pas le droit de dire à des potes, même médecins,
ah bon,
ce matin, j'ai vu Nagui, simplement pour me faire mousser parce que c'est quelqu'un de célèbre.
Oui, et, alors si ça, et si le médecin, un autre médecin d'une autre catégorie, vous contacte en disant, j'ai vu l'un de vos patients, j'ai besoin de savoir ça.
C'est autre chose. Ah, ça, c'est dans l'intérêt du patient. Si j'ai besoin, moi je suis ORL, si je vois quelqu'un de célèbre et que j'ai besoin d'un cardiologue, je parle au cardiologue du cas de mon patient. Là, il n'y a pas de souci. Mais juste, c'est pas ce qui se passe. Pour se faire mousser, les médecins, ils aiment bien. Ah, bah, tu sais pas qui j'ai vu ce matin. Moi, j'ai des potes qui me pèsent un coup de fil. Dîner en ville, le coup de fil, c'est pas qui j'ai vu ce matin. C'est strictement interdit. Et donc, je voulais écrire quelque chose autour de ça.
En revanche, Michel, si vous dites ce matin, j'ai vu un patient sans dire que c'est Nagui. Il avait ça, c'était extraordinaire. Est-ce que vous avez le droit de parler du cas sans donner l'identité?
Absolument.
Même entre copains?
Même entre copains.
Juste comme ça.
J'ai vu un cas particulier, machin, c'est un cas médical. Mais je n'ai absolument pas le droit de dire de qui il s'agit.
Vous êtes auteur, Michel Simès, de cette pièce avec Christophe Brun, Patrice Romeden et Nicolas Lombreras. Donc, c'est ensuite, une fois la pièce écrite, que vous avez contacté Philippe pour la mettre en scène.
Voilà, oui. En fait, non, il dit non, mais si. En fait, mais t'es bourré ou quoi?
T'as pas le droit de le dire, secret médical.
Secret médical. En fait, pour remettre les choses à leur place, l'église au milieu du dossier, en fait, nous nous connaissons depuis longtemps avec Michel. Nos enfants étaient ensemble à l'école et on se connaissait, on se fréquentait, on s'appréciait, mais il n'était pas question de télé, ni de théâtre, de travailler ensemble. Il y a donc quelques années, il me dit j'ai bien envie d'écrire une pièce de théâtre. Et ben, je lui dis t'as bien raison. Et il est parti écrire avec ses potes une pièce de théâtre. Et trois semaines après, il est revenu et il m'a tendu quelque chose en me disant je veux que tu fasses la mise en scène. Et écrire une pièce en trois semaines, évidemment, il manquait des petits éléments. Il y a un peu de dramaturgie, les personnages parlaient tous un petit peu pareil, mais l'idée était là. C'est-à-dire que l'idée du secret médical, elle était vraiment présente et très intéressante. Et je lui ai dit, écoute, il manque des choses, mais on tient un truc. Et ils sont mis à bosser. Et on
a quand même, pardon, les trois unités qui sont respectées. Unité de temps, de lieu et d'action. On est vraiment dans quelque chose qui reste une comédie.
Ah oui, vraiment une vraie comédie. Oui,
mais avec quand même une tension.
Avec une comédie avec du fond.
Voilà.
Et ce qui n'est pas négligeable, parce qu'on raconte quand même quelque chose. Et c'est vrai que cette pièce a pris forme et a pris de l'ampleur au fur et à mesure. On peut dire qu'il y a eu plusieurs versions. Si on peut, combien de versions, Michel?
Une vingtaine.
Oui, 29 exactement.
En combien d'années?
En 6 ans.
En 6 ans, oui.
D'accord.
Mais donc, ça a été un vrai travail. Ouais. C'est-à-dire que Michel, il a été OK avec ça. Il n'a pas dit, ouais, on tient quelque chose. Il m'a fait confiance, comme je lui ai fait confiance, et on a obtenu cette pièce.
Donc vous avez mis votre grain de sel dans la structure, en tout cas dans la narration de la pièce. Pas que de la mise en scène, mais aussi vous êtes mêlé de l'intrigue.
Un petit peu, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de lectures. Moi, j'ai fait venir des acteurs. Une fois que acteurs ont commencé à lire la pièce, ils ont mis aussi leur grain de sel. On peut les citer, c'est
oui,
ça?
Oui, Clémence Thioly, parce qu'il y a une jeune femme seulement sur scène, le reste ne sont que des mâles
alpha.
Oui, mal alpha. Non, mais je dis ça parce qu'il y a un rapport aussi, il y a un petit côté vaudeville vis-à-vis du personnage de Clémence Thioly, des histoires qu'elle peut avoir, ou peut-être des amourettes qu'elle peut faire naître.
La généraliste du groupe.
Voilà.
Les autres sont
des spécialistes. Ouais. Et ils sont tous médecins, sauf vous.
Ouais.
C'était ça aussi la vanne.
Absolument. Et on a Jean-Pierre Maillot.
Alors Philippe Dussault, lui, il est
proctologue.
J'adore dire ce mot.
Ça ne m'étonne pas que vous ayez évidemment insisté.
Présenté en plus, j'ai un pote qui est proctologue qui est venu voir la pièce et je lui ai présenté à la fin pour voir si ça correspondait bien au profil.
Jean-Pierre Malignon,
c'est le chirurgien esthétique, mais alors la caricature du chirurgien esthétique qui pense à deux choses, au pognon et au nana.
Et celui qui va être le détonateur de toute l'intrigue, c'est Philippe Vieux qui est le psy.
Qui joue le psychiatre et effectivement qui va, et on l'apprend c'est le point de départ parce qu'en fait il a dans sa patientèle, un homme politique très connu, un tribun qui a beaucoup de charisme et dont on apprend ce soir-là qu'il va se présenter à la présidentielle et il ne le suit pas pour rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va violer le secret médical au risque de se faire radier par le Conseil de l'Ordre ou est-ce qu'il va, débrouiller pour sauver la France?
L'intérêt, c'est de sauver la France parce que ce mec est dangereux.
Ce mec, en tout cas, n'est pas suivi par un psychiatre depuis tant d'années pour rien.
Voilà.
C'est pas parce qu'on va voir un psychiatre
non,
qu'on est
mais justement, celui-là, il a quand même un petit souci plus important qui fait que c'est compliqué de l'imaginer prendre la
les
fonction.
Les jeudis et vendredis à 19h, samedi à 16h et 21h, les dimanches à 15h, il y a des représentations déjà prévues pour Noël à 17h et pour le jour de l'an à 16h et 21h, c'est au Théâtre Saint-Georges. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Bruno Pecky. Mmh.
Ah, bravo.
Vous n'auriez pas écrit une pièce sur le secret médical comme ça, vous?
Oh non, pas ça. Pas ça, Michel. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. C'est quoi cette reconversion, quoi? Personnalité du PAF qui devient comédien de théâtre. Mais vous pensez à nous un peu? Ça va donner des idées à Leïla et Nagui. Et c'est nous qui devrons les calmer pour qu'ils ne montent pas sur les planches dans la pièce Silence Radio dans laquelle ils maltraitent des jeunes chroniqueurs, quoi. Même pour vous, c'est même pour vous passer de docteur à intermittent du spectacle, quoi. C'est le déclassement social le plus humiliant depuis celui de Bruno Le Maire, vraiment. Et puis, vous pensez un peu aux autres comédiens qui galèrent à faire leur cachet pour avoir l'intermittence, quoi. Si les médecins commencent à prendre leur job, ça va être compliqué, quoi. Mais après, je dois vous avouer, hein, un médecin qui fait le comédien, pourquoi pas? L'inverse, beaucoup moins, quoi. Imagine, tu dois te faire opérer pour un pontage cardiaque, c'est qui le chirurgien? Pierre Ninet, qui prépare un rôle de toubib et qui doit s'entraîner. Voilà, mauvaise nouvelle, peut-être que vous allez mourir, mais bonne nouvelle, il va gagner le César. Après, Michel, il paraît que vous vous êtes beaucoup préparé pour ce rôle de patron de resto. Vous avez même fait une caméra cachée dans laquelle vous êtes serveur. Et voilà, serveur, quoi. Qui est souvent un métier exercé par qui? Des comédiens qui galèrent, voilà. Non mais décidément, vous leur volez tout leur boulot. On pensait que ce serait l'intelligence artificielle qui allait nous remplacer. Eh ben non, c'est Michel Simès. Parce que ça ne s'arrête pas là, Michel. J'ai appris aussi que vous n'avez rien à faire des metteurs en scène. Et oui, j'ai lu que lors de vos premiers pas d'acteur, vous n'avez demandé conseil à personne, car je vous cite... Tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, c'était au feeling. J'ai bien pensé demander quelques conseils à Philippe Levièvre, un comédien que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas fait. Et ben déjà, sympa pour Philippe Levièvre, qui visiblement prête son nom pour la mise en scène de cette pièce. Voilà, ça joue entre lui et Pénélope Fillon pour cet emploi fictif. Après, je comprends, c'était plus compliqué d'avoir la mention mise en scène, le feeling de Michel Simès. Quoi. Et surtout une pensée pour vos patients, qui apprennent en direct que dans votre vie, vous avez tout fait au feeling et qui doivent être très contents que vous soyez devenu comédien. Enfin, s'ils sont encore parmi nous, hein, parce qu'ils ont été soignés au feeling, on le rappelle. Bon, en même temps, comme vous étiez au RL, hein, ils nous écoutent sans doute pas, parce qu'ils sont devenus sourds. Voilà. Allez, bref, pour revenir à la pièce, vous l'avez même coécrite, et ça se voit que vous avez puisé dans votre vécu. À un moment donné, les personnages font des vannes en jouant au blind test.
Ouais. Oui.
Exactement ce que faisait la bande originale. Vous étiez chroniqueur. Ouais, vous nous avez tout pompé. Ouais. Heureusement que vous n'êtes pas inspiré des questions de Nagui, sinon la pièce aurait duré 6 heures. Par contre, quelle idée d'écrire la pièce, quoi. Vous pensez à vos collègues comédiens, comment ils vont faire pour réussir à vous relire? Vous êtes médecin. Ouais, la blague n'est pas ouf, j'avoue, mais je vous jure, c'est tout ce qui me reste, quoi. J'aimerais bien parler du contenu de la pièce Secret Médical, sauf que c'est un spectacle où il n'y a littéralement que des secrets. Et vu que j'ai pas le droit de spoiler, bah, je suis sacrément dans la merde. Voilà. Si j'en parle, je me fais virer. Si j'en parle pas, je me fais aussi virer, donc oui, j'ai décidé de me foutre de la gueule des invités, comme ça je me fais quand même virer, mais avec panache. Bon, ce dont je peux parler, on l'a dit, la pièce raconte qu'un des patients suivi par un des personnages est en fait un politicien en lice pour la présidentielle qui souffre d'une maladie qui pourrait mettre à mal la gestion du pays, et se pose alors la question du secret médical, faut-il oui ou non tout dévoiler? Et là, Michel, je sais pas si vous êtes inspiré de votre vie ou juste de l'actualité, parce que je pense qu'en ce moment, il y a genre quoi, 200 candidats à la prochaine présidentielle. Donc tous les médecins de Paris ont au moins un patient qui veut se lancer, voilà, dont 36 qui ont été envisagés comme Premier ministre la semaine dernière. Donc en attendant d'avoir des révélations de votre part, Michel, bravo pour votre polyvalence, mais par pitié, ne redevenez pas chroniqueur dans la bande originale. Sinon, c'est moi qui vais finir serveur, pire, chirurgien.
Merci.
Bruno Pecky sur scène le 5 novembre. Il sera en Suisse à Estavayer-le-Lac.
Et toi non plus, tu n'as pas changé.
Le meilleur.
Toujours les mêmes parfums légers. Toujours les mêmes.
C'est la première musique que l'on entend hein, dans la pièce. Il a une
j'ai réussi à imposer ça à Philippe.
C'est-à-dire un iPad Julio, qui diffuse de la musique dans le bar ou...
Moi, en fait, je voulais. J'ai dit à Philippe, j'aimerais bien, parce que c'est flippant, hein, on parlera peut-être du stress, mais quand tu rentres sur scène et que c'est. C'est toi
et
qui.
Et c'est la première fois.
Oui, que c'est la première fois, je me suis dit, si je suis en coulisses en train de fredonner un petit peu, ça va m'aider à me détendre un petit peu, et c'est ce qui se passe. Effectivement, je fredonne Julio Iglesias avant de rentrer sur scène et de passer 2-3 minutes tout seul.
Mais justement, vous n'êtes pas dit avant de vous lancer dans la pièce, tiens, je vais participer, je ne sais pas, à d'autres spectacles, mais pas avec le rôle principal, y aller progressivement, justement, pour apprivoiser ce track.
C'est plus que le rôle principal, c'est
oui,
auteur,
non, mais voilà.
Compositeur,
non, mais
interprète.
Sur scène, j'entends, sur scène.
Ouais. En fait, bon, quand on a écrit cette pièce avec Christophe Brun et Patrick Somden, c'est vrai que j'avais l'intention de me dire peut-être que si éventuellement à la fin quelqu'un nous prend, je jouerais. J'étais pas sûr du tout d'avoir le courage de le faire.
Okay.
Et normalement, je voulais jouer le chirurgien esthétique. Et puis ils m'appellent tous. Un jour, il m'appelle tous, il me dit « Il n'y a pas question que tu joues un médecin, on t'attend trop là-dedans. Tu vas être l'aubergiste. » Donc là, après, je me suis dit « Mais est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pouvoir ?» etc. Et on m'a expliqué que si j'y allais pas, la pièce risquait de pas se monter. Et donc, il y a un moment, vous ne pouvez pas...
Ou avec Nagui.
Non, mais ça n'empêche pas démonter, pour autant d'avoir d'autres expériences sur scène, parce que vous jouez, vous avez déjà, vous êtes comédien dans, non, mais... dans les tournages de France
oui,
Télé.
Oui, mais justement,
dans
les, là, c'est dans ça. Les moi, films. Bêtement, très naïvement, je me disais, comme j'ai fait quelques téléfilms, ça va m'aider, ça va me servir. Ouais. Mais rien du tout.
C'est vrai.
Mais rien, ça n'a rien à voir, le théâtre, rien à voir. J'ai bossé pendant des semaines et des semaines, coaché par Philippe. Je me suis pas fait engueuler comme ça depuis l'école primaire. J'ai pas bossé comme ça depuis la première année de médecine. C'est un boulot de fou qui n'a rien à voir avec ce que je faisais en téléfilm.
Alors c'est un métier essentiellement d'écoute ou c'est un métier d'interprétation. La première chose est d'écouter les autres acteurs sur scène. Parmi les conseils essentiels que vous lui avez donné, j'imagine que la mémoire était au rendez-vous et de connaître le texte était déjà une chose. Mais
c'était son angoisse.
C'est se déplacer dans
se déplacer en l'espace. Parlons-en. Mais en tout cas, son angoisse, c'était le texte. Comme les gens viennent nous voir, les néophytes. Oui. Alors, vous faites comment pour apprendre le texte? On l'apprend simplement, sauf qu'on ne l'apprend pas en 10 minutes. On l'apprend quelques mois avant. On l'apprend en répétant tous les jours le même texte.
Ça devait être déjà plus confortable de l'avoir écrit pour l'apprendre. Ça a dû aider, Michel.
Un petit peu, mais pas tant que ça.
Mais parlons des déplacements.
Mais c'est pas le nœud du problème.
Les déplacements, en fait, je connais Michel depuis de longues années et je ne m'étais jamais aperçu qu'il était nonchalant.
Qu'il avait du mal à se déplacer.
Non, qu'il était nonchalant. Il a quelque chose de nonchalant et tout à coup sur scène, mais ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, mais Michel, tu avais 6 ans pour aller de cours à jardin, c'est pas possible. Et tout à coup, il a pris aussi conscience de ça et on a été aussi l'un vers l'autre. Même dans sa posture, il a quelque chose de mal, quelque chose d'ancré. Je l'ai appelé Lucky Luke d'ailleurs, comme un peu un morceau de bois. Et Michel.
Il y a d'ailleurs une scène un peu de duel à un moment donné dans la pièce aussi.
Oui, quand il s'avance vers le psy. C'était aussi une petite volonté. Mais en tout cas, Michel m'a jamais dit « Je n'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop compliqué ce que tu me demandes. » Le premier soir, c'est vrai qu'il a avoué, mais il m'a avoué ça 3 semaines après. Il me dit « Le premier soir, Philippe, j'ai failli t'appeler et te dire que j'arrêtais. » J'ai compris ce que c'était que de faire 2 services de 4 heures de répétition. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la télé, on vient vous chercher, vous êtes assis, vous faites chier pendant 3 heures et vous venez tourner 2 minutes. Là, on est constamment, surtout dans cette pièce chorale, il fait partie de la troupe, quoi.
Est-ce qu'il y a vraiment de concentration aussi, Michel?
Alors après, il va pouvoir répondre à ça.
Moi, je suis TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, donc la concentration, c'est une catastrophe pour moi. Et je me suis dit, j'ai bossé 8 mois le texte, même si je l'avais écrit pour l'apprendre de façon très scolaire. Et puis après, la mémoire est tellement incroyable que les déplacements déclenchent le dernier mot de la réplique de l'autre, etc. Mais moi, j'ai des moments dans la pièce. Alors maintenant, ça va parce que je suis plus détendu. Mais avec le stress, parfois, j'ai le cerveau qui se barrait et on peut pas, c'est pas possible. C'est une pièce ping-pong. Les répliques fusent l'un les autres.
Il y a du monde, et puis c'est choral. Alors le problème, c'est se détendre ne serait pas un inconvénient, finalement, d'être trop détendu et...
Si, trop oui, mais un peu. C'est-à-dire que pour prendre du plaisir, il faut être un peu détendu. Moi, j'étais tellement stressé.
L'important, c'est le plaisir du public.
Oui, mais le public, mais moi aussi, il faut que j'en prenne pour en donner. Ça...
On verra après, on n'a pas le temps.
Et donc, au début, j'étais tellement tendu. Enfin, la première, j'étais liquide, quoi. Ouais. Et après, je me suis un peu détendu.
Ce petit joint vous a aidé, quand même.
Ce qui fait que le fait de se détendre permet de penser plus au jeu qu'au texte.
Et puis il y a la musique du texte, il y a le rythme en effet des répliques, puisque c'est un ping-pong permanent avec tous ces artistes réunis sur scène pratiquement du début jusqu'à la fin. Il y a très peu de moments où il n'y a que 2 personnages sur scène. Et puis il y a le rythme aussi des rires du public sur lesquels il faut se caler. Il faut savoir à quel moment une vanne va mériter.
Non, et c'est surtout qu'on est toujours surpris aussi qu'une vanne qu'on n'attendait pas fasse rire. Ça a été, on a découvert ça. Mais c'est vrai que j'ai dit à Michel que les choses vont venir toutes seules. Je lui ai dit, t'as le permis de conduire, maintenant il faut que tu conduises. Et il s'aperçoit, on parle, on débriefe souvent après le spectacle, quand je viens 2-3 fois par semaine. Tiens, t'as vu...
Vous faites des notes ?
Oui, je suis le roi de la note.
Ah ouais. Il a un petit carnet, il a 8 pages, et on en a pour une demi-heure après.
Non, pour une demi-heure, hier soir par exemple. 10 minutes, à peine. Moins en bonne note.
En fait, il faut quoi? Des kilomètres au compteur pour pouvoir ensuite continuer à avancer, à progresser? Il y a des paliers? Comment ça marche?
Faut comprendre et comprendre ce que l'on fait. C'est-à-dire quand, quand
c'est
on
le problème
est...
avec Michel, ça.
Oui, non, mais il comprend. Non, mais Michel est très intelligent, ouais. Il comprend très vite.
Ah, il change. Après,
c'est récent, mais en tout cas, il s'est donné corps et âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, il est venu avec ses gros sabots en me disant ceci, cela. Il a été vraiment comme un enfant, c'est ce qui prouve que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a été une espèce de vampire avec tout, avec les acteurs, avec moi, avec ce que je lui disais. Et quand je n'en avais pas assez dit, je le gonflais tous les soirs, il voyait le téléphone sonner, c'était moi qui l'appelais. Je lui reparlais de quelque chose. Mais c'est pour ça que j'ai voulu l'accompagner jusqu'au bout. J'ai souhaité aussi qu'il y ait, on a fait une douzaine de filages pour qu'il comprenne ce que c'est que jouer la pièce.
On a beaucoup parlé du travail, de la préparation et du coaching, entre guillemets, de Michel. Parlons de la pièce en elle-même et ce qui s'y passe, parce que chaque personnage, chaque médecin a son intrigue, a sa situation. Et même le patron du restaurant a aussi son.
C'est la raison pour laquelle il y a secret avec un S, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est parce qu'il y a plein de secrets. Il y a les secrets de André, le patron du bistrot, il y a les secrets de Lisa, ils ont tous des secrets au-delà du big
soit
secret.
Soit ils ont des secrets avec l'extérieur, entre guillemets, entre celui qui perd son procès et son divorce, en tout cas, avec son ex, celui qui a en effet un client qui prétend être président de la République et qui peut être un danger pour tout le monde, mais il y a aussi des secrets entre eux, c'est-à-dire parce qu'ils sont
là,
potes.
Là, on ne peut pas trop en parler, mais on peut dire qu'il y a des secrets entre eux.
C'était pour parler un peu de la pièce.
Oui, oui.
Je veux qu'on parle que des répétitions, mais ça serait bien.
Donc il y a des secrets, ils ont des secrets entre eux, effectivement.
Et en fait, il y a plein de petits secrets entre eux, mais comme vous l'avez dit, c'est une comédie dans laquelle il va y avoir
plein de... Il y a quand même des intrigues.
Il y a des intrigues et il y a plein de petits trucs sympas. En fait, il y a un esprit carabin entre eux, parce qu'en fait, finalement, ce soir-là, André, que je joue, patron du bistrot, reçoit ses copains médecins qu'il connaît depuis la faculté de médecine, parce que l'hôpital est à côté, etc. Et tous les mois, il organise un dîner pour eux, pour tester des nouvelles recettes, et dans lequel ils ferment le resto. Donc, ils se retrouvent entre eux, donc ils se lâchent complètement, comme un dîner de potes. Le plus beau compliment qu'on a depuis qu'on joue, c'est les gens qui, à la fin, nous disent « C'est incroyable, on a l'impression d'assister à un dîner de potes. »
On était à table avec vous.
On était là avec vous. Alors, il y a de l'humour carabin, il y a des trucs un peu bizarres, il y a des choses qui peuvent choquer aussi le public, parce que les médecins parlent entre eux des patients, mais d'une façon un peu particulière, notamment le chirurgien esthétique, par Jean-Pierre Médignon.
Sans filtre, oui. Et puis, il y a aussi des vannes. Alors, je ne sais pas, entre la fois où je l'ai vu et aujourd'hui, il y a déjà eu 4 gouvernements qui ont succédé. Est-ce que vous changez de vannes aussi par rapport au gouvernement?
On va peut-être le faire.
Est-ce que vous êtes passé de Bayrou à Le Cornu.
Voilà, j'ai failli.
On a été une suggestion de Michel, mais on attend un peu.
Mais c'est vrai que cela dit.
Faites vite, parce qu'elle va pas.
On
va retrouver une autre vanne.
Non, mais la période politique actuelle, pour nous, c'est du pain béni.
Ouais,
c'est incroyable, parce que finalement, on décrit aussi pas mal ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on s'était dit, les présidentielles, c'est en 2027. Si on tient jusque-là, ça peut être marrant. Mais des gens qui peuvent péter les plombs, des politiciens qui sont un peu borderline et qui nous font
peur. Qui sont vus comme des grands malades de la part des autres. On peut se poser la question
aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si des hommes politiques étaient suivis par des psys?
Je me suis pas posé la question, mais je sais que j'avais posé la question à François Hollande un jour. Je lui ai dit dans un de mes posts sur Instagram, je lui ai dit le boulot de président de la République, c'est le stress, la gestion de crises internationales, de problèmes nationaux, etc. On dort mal, on a les jet lags. Imaginez
la com.
Et la com. Mm. Est-ce que un jour, je lui ai dit à François Hollande, est-ce qu'un jour vous n'auriez pas eu besoin de parler à un psy? Mais il m'a dit, mais bien sûr que si. Mais on peut pas.
Ah oui.
Imaginez que ça se sache.
Secret.
Imaginez que quelqu'un vous voit rentrer.
Toujours maintenant, là, en 2025.
Mais toujours. Ouais. Toujours. Et enfin,
pardon, François Hollande a pris d'autres risques en allant visiter d'autres personnes. Et ça s'est su. Bon, après.
Ça, c'était pour le plaisir. C'était pas pour évacuer son stress. Mais évidemment, évidemment que c'est un boulot hyper stressant, hyper prenant et qu'on peut avoir besoin d'évacuer un petit peu.
Oui, sauf que là, vous avez posé la question à quelqu'un qui était en place, pas à quelqu'un qui postule. De se demander si ceux qui se présentent à l'élection présidentielle ne devraient pas passer des tests pour savoir si oui ou non ils sont. vous, oui Nagui, ou non, ils
il
sont
suffit
schizo.
De regarder l'actu aujourd'hui, de regarder les déclarations de tous les hommes politiques qui se demandent s'ils vont entrer au gouvernement, pas entrer au gouvernement, pour lesquels l'ego est mis en avant avant l'intérêt de la France, pour comprendre qu'il y a des profils psychologiques qui sont un peu inquiétants s'ils arrivent à la tête, à la tête du pays.
Et ceux qui disent « moi jamais » qui finissent par y être une semaine plus tard.
Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui.
Pourquoi avoir pris le prisme de la politique justement et pas celui de la notoriété? Parce qu'on peut se poser la même question sur des stars du cinéma, des stars de la chanson.
Parce que la politique implique tous ceux qui viennent nous voir. Parce que la politique, c'est nous, c'est vous, c'est le public qui vient et on est tous impliqués par le président de la République. Et on le voit aujourd'hui. Ça a des conséquences sur notre vie quotidienne. Beaucoup plus que si c'est un chanteur, un joueur de foot ou autre qui est pas net.
C'est au Théâtre Saint-Georges, donc, avec cette pièce mise en scène par Philippe Lelièvre, qui est notre invité, écrite et interprétée, enfin, co-écrite et interprétée par Michel Simès, Christophe Brun, Patrice Roumeden et Nicolas Lambreras. Ça, c'est pour les auteurs et l'interprétation. Clémence Thioly, Philippe Dussault, Jean-Pierre Malignon et Philippe Vieux, pour lequel j'ai une véritable tendresse. Aussi. Il est tellement drôle.
Il est extraordinaire.
Dans sa manière de s'énerver tout seul dans son, dans son coin.
Mais c'est le vrai psy.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est le mec qui peut péter les plombs.
Au Théâtre Saint-Georges, on en parle jusqu'à 12h30. Voici d'abord Camille, là-bas.
Une invitée spéciale aujourd'hui, on le sait, l'image de la France est plus que jamais écornée à l'international. Il nous fallait donc une spécialiste pour nous éclairer ce matin. De retour à notre micro, l'attachée culturelle à l'ambassade américaine en France, Brittany McMurphy. Brittany, bonjour.
Bonjour Leïla Kadour, je suis tellement heureuse de voir que vous êtes toujours ici.
Sur France Inter ?
Non, sur le territoire français.
Ok, bon. Brittany, on vous avait déjà reçu et il n'y a pas si longtemps pour évoquer la situation politique française, mais les choses semblent encore avoir changé.
Oh really? Oh sorry, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je reviens un week-end prolongé.
Un week-end prolongé?
Oui, I'm so French.
Oui, bon, vous étiez où?
À Marseille. Vous connaissez?
Ah oui, oui, je connais un peu.
Oh
oui.
My God, it was amazing. Well, attention, I mean, je adore la France, mais je crois Marseille, il est mon deuxième pays préféré.
Ah oui. Mais alors Marseille, en fait, est française.
Oui, oui, bien sûr, comme vous, Leïla.
Très bien. Bon, la ville vous a plu?
Oh yes, so much. Elle est comme Miami avec des scooters. C'est tellement exotique.
Exotique?
Oui, à Paris, pour dire bonjour, vous faites le bise. Là-bas, ils font le roue arrière. Fantastique.
Bon, alors, excusez-moi, mais j'aimerais qu'on revienne plutôt à la situation politique actuelle et à notre Premier ministre.
Ah oui, mais je suis désolée, je ne sais pas qui est Premier ministre. J'ai fait le week-end prolongé.
Ah, d'accord, bon, il s'agit...
I'm so French.
Voilà, j'ai compris.
Voilà. Qui est le Premier ministre?
C'est Sébastien Lecornu.
Le nouveau.
Sébastien Lecornu.
Non, le nouveau.
Sébastien Lecornu?
Non, Leïla. En français, nouveau, ça veut dire celui de maintenant.
Ok. Oui, je sais. Mais Emmanuel Macron a renommé Sébastien Lecornu Premier ministre.
What? I mean, what the fuck?
Brittany, s'il vous plaît.
Oh my God, vous de français, vous êtes notre meilleure série HBO. So, il le virait et maintenant qu'il trouve personne de mieux, il récupère. Fantastic.
Oui, alors, enfin, c'est plutôt Sébastien Lecornu, pour être exact, qui est parti la première fois.
Oui, oui, moi aussi, j'ai dit ça à mon ex.
Bon, toujours est-il que maintenant, nous allons avoir droit à un gouvernement Lecornu, mais sans garantie de stabilité. Est-ce que vous avez le sentiment que l'image de la France s'est dégradée?
Bien sûr, mais on va vous aider.
Vous voulez dire que Donald Trump voudrait aider la France à retrouver un équilibre politique?
Oh non, ça, c'est pas possible. Donald, il peut faire la paix entre Israël et Gaza, mais il peut pas faire la paix entre Olivier Faure et Marine Tondelier.
Ok, alors que comptez-vous faire?
Well, la dernière fois que je suis venue, je vous ai proposé un nouveau gouvernement pour la France, mais en réalité, il ne pouvait pas fonctionner.
Ah bon, pourquoi?
Parce qu'il n'y avait que des Français dedans. So, là, j'ai une nouvelle proposition. Ministre de la Justice, Ali McBeal. Ministre du Défense, Jack Bauer. Ah oui. Ministre de l'Économie, Donald Trump.
Mais il est président des États-Unis.
Oui, mais il ne travaille pas le lundi. Ministre de l'Éducation, ChatGPT. Ministre de la Santé, Jennifer Lopez. Wow. Oh my God. Vous l'avez vu en bikini. Ah. I mean, oh wow, she's so...
Brittany, ok, d'accord. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va devoir rendre l'antenne de toute façon.
Oh, ok, comme vous voulez.
Merci d'avoir été avec nous. Bientôt, à bientôt sur France Inter, Brittany.
Oh, merci, vous aussi. À bientôt, peut-être, sur France Inter, Leïla Kadour. Inch'Allah!
Merci Camille.
Il est bien son gouvernement. Il est pas mal son gouvernement.
Moi je prends.
À part l'économie, le reste.
Vous pouvez la retrouver sur Netflix dans French Lover.
Mais oui.
Mac Walter. Oui.
Et c'est un énorme. Sur Amazon. C'est un énorme succès French Lover.
Et Mac Walter aussi.
C'est super.
Énorme. C'est Camille. Camille.
Sur Amazon Prime.
Évidemment.
Génial.
Et sur Disney.
Génial.
Ticket tac.
Génial. Il y a beaucoup de musique hein, dans la pièce.
Ouais.
Énormément de musique. Évidemment.
Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste.
À la fois drôle ou flippant, si on prend vraiment le prisme de sont-ils tous malades, fous, dangereux, et peuvent-ils être élus sans qu'il y ait un contrôle mental? Parce que c'est une vraie question, n'empêche, de se dire.
Il y a un examen.
Il n'y a pas d'examen. Quelqu'un peut péter un câble en étant président de la République.
Il y a une visite médicale, comme les footballeurs. Mais non, il n'y a pas.
Moi, je pense qu'il faudrait un colloque de médecins qui régulièrement examine sur le plan psychologique et sur le plan physique, un président de la République.
Mais alors quand François Mitterrand avait caché dans son bilan de santé sa maladie?
Parce qu'il avait une complicité.
Oui, mais donc ça veut dire qu'il y avait un bilan de santé qui était fait, qui était publié.
Mais qui était falsifié.
Oui, mais alors peu importe la falsification, ça veut dire qu'il y a eu un rapport de santé, ça veut dire que c'était instauré.
Oui, que c'était instauré, mais ils font ce qu'ils veulent. Les présidents ont aussi droit au secret médical. Ils ne sont pas obligés de dire de ce qu'ils ont. Alors...
Non, mais pardon, qu'il y ait un secret médical autour de maladies que je qualifierais de physique, mais pas mentale, c'est pas la même chose. La mentalité,
quand ils ont le bouton.
Non, parce que je veux pas là.
Ils ont quand même le
bouton pour...
Ouais, enfin, une maladie physique avec un traitement qui fait que ça peut avoir des implications sur ton discernement, sur ta capacité à décider. C'est pas de la santé mentale, mais c'est quand même physique.
Mais ça devient de la santé mentale.
Ouais, oui, c'est ça. Voilà.
On en a parlé tout à l'heure, mais président de la République ou Premier ministre, vous voyez la pression que c'est, surtout dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment. Donc, il faut être solide. Ils sont entourés, ils sont pas tout seuls, mais il faut être solide. Et on peut tomber dans la burn-out aussi quand on est président de la République. Et donc, moi je pense, mais beaucoup de médecins le pensent aussi, qu'il faudrait qu'il y ait un collège de médecins qui régulièrement s'entretient avec le président de la République pour voir si tout va bien.
Ce casting donc réunit Philippe Dussault, Jean-Pierre Malignon, Philippe Vieux, Clémence Thioly et vous, Michel Simès, sur scène avec cette adresse du Théâtre Saint-Georges qui est vraiment le théâtre de la comédie aussi. Il y a quelques adresses comme ça, on l'avait évoqué la semaine dernière sur les répertoires qui sont joués dans différents théâtres. Ça claque bien, Théâtre Saint-Georges.
Ça claque, et même si les directions se sont succédées, ils ont gardé ce côté.
L'identité.
Mais là, on n'est pas au boulevard avec cette pièce. On est vraiment dans une comédie.
Il y a un peu de boulevard, mais pas beaucoup. Il y a une allusion faite sur les histoires d'amour et les tromperies.
Oui.
Je vais pas plus loin.
D'accord. Alors un petit peu.
Moi,
je ne la vois que comme une comédie.
C'est pas du Fédo, mais voilà, c'est ça. Il y a quand même un comique de situation qui n'est pas que basé sur la psychologie ou le problème mental,
qui est basé sur le
rapport entre potes.
Oui.
Et sur la manière dont une amitié aussi peut se sentir soit trahie, soit encore plus forte avec les années. Parce que là aussi, il y a plein de fois, on dit « Mais comment ça, tu ne me l'as pas dit ?» alors qu'on est potes depuis la fac.
Oui, mais il y a une raison précise pour laquelle on lui a pas dit.
Oui, mais...
On ne le dit pas.
Et puis, il y a un débat de fond sur le secret médical quand même, en plus de la comédie.
Et c'est déjà un succès. Donc, comment vous le vivez, ce carton?
Très mal.
Philippe,
c'est grisant.
Moi, je suis un gamin. Enfin, je très franchement, je réalise pas. Je réalise pas parce qu'on a écrit ça avec trois potes comme ça sur un coin de table pendant une semaine et on finit par. On a trois théâtres parisiens qui voulaient avoir la pièce. On a choisi le Théâtre Saint-Georges, mais on en est à 14e ou 15e et on a déjà des salles qui sont quasiment pleines. C'est pour moi. Très franchement, je réalise pas. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Voilà, c'est formidable.
On en parle souvent, la contrainte de faire tous les jours, ça
Non, alors j'ai de la chance d'avoir trois jours, lundi, mardi, mercredi, où je joue pas, où on joue pas.
Pour l'instant.
Mmh. Mais
merci d'avoir dit. Oui, déjà prévenu.
Non, mais après, après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Enfin, je savais que
c'est pas
vraiment une contrainte quand vous faites marrer le public.
Et physiquement, jouer deux fois par jour.
Physiquement, ça va. Aujourd'hui, ça va. Parce qu'on joue, mais le plus dur, ça a été les cinq semaines de répétition avec Philippe du matin au soir. J'étais vidé. Mais vidé au point que je me demandais si j'allais tenir physiquement. Et je me suis préparé tout l'été pour les répétitions, comme si j'allais faire une compétition sportive.
Vous avez enfin arrêté l'alcool ?
Ouais, j'arrête l'alcool complètement, pas de rosé, rien, du sport, bien dormir, etc. Et je suis content
c'est
de l'avoir
fait.
C'est
pas du vin, du rosé, c'est pas du vin.
Je suis content. Le mien, si.
Ouais, méfiez-vous, c'est Leïla qui l'a dit quand même. On va recevoir justement Laurence Perron, qui est journaliste au service politique de France Inter, pour parler de la santé des présidents, qu'elle soit mentale ou pas, je parle de la santé. Et la bande originale de Michel Simès et Philippe Lelièvre, on va commencer par vous, Michel, dans les années 80. Mais non.
J'ai décidé d'être très ringard. Donc voilà. Moi, j'assume. La variété française, pour moi, c'était top.
Alors, c'était ringard à l'époque. C'est devenu culte depuis.
Bah, dans toutes les, tous les restos festifs.
Les karaokés.
Vous avez comparé vos répétitions avec Philippe à votre première année de médecine. On y est début des années 80. Michel, comment on tient une préparation à médecine, justement? Vous parlez des présidents de la République qui sont à la limite peut-être du burn-out sans qu'on le sache. Quand on est étudiant et qu'on prépare médecine,
la première année de médecine, c'est la prison. Vous savez que vous commencez à entrer en prison, puis vous en sortirez à la fin du deuxième concours. Vous faites que ça, vous vivez plus. Dès que vous allez au ciné pour vous détendre un peu, vous vous dites merde, il y a 100 mecs qui sont pas allés au ciné et qui vont passer devant parce que c'est un concours. Et voilà, ça a été une année absolument terrible. Et je suis content d'avoir réussi le premier coup pour pas avoir à refaire deux fois.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on, là, pour le coup, on sort pas.
On fait rien. Rien. Vous bossez du matin au soir.
Mais comment
vous,
on tient? Comment
vous,
on tient?
Eh ben, on tient. Ah, vous voulez savoir si j'ai pris des trucs?
Je sais pas. Il y a des étudiants qui le confessent après coup, hein.
Non, on tient.
Des vitamines, déjà.
On tient avec du café. J'ai pris à
l'époque. Les contre les compléments alimentaires.
Non, ouais. À l'époque, j'ai pris ce qu'on appelait l'ordinator, qui était un.
Tu bouffais un ordinateur.
C'est pour ça qu'il est OMS. Je savais pas ce que c'était, mais je suis pas sûr que ce soit pas des amphétamines.
Ah ouais.
Et ça me permettait. À l'époque, ouais. Et franchement, je. Ah oui. Je tenais comme ça, mais après c'est boulot. Vous avez envie
d'y ou URL, je sais pas, l'ordinateur qui l'a bouffé. La musique chez Philippe Lelièvre est l'une de ses qualités. Qu'est-ce que c'était bien ça, avec le flamant rose sur la pochette.
Pochette verte.
Christopher Cross.
Bah, c'est mes années Florent, ça. Les années 80.
Les cours Florent, oui.
Et vous signez aussi votre première mise en scène à cette époque-là.
Oui, c'est vrai.
Un texte de René de Obaldia.
Oui. Je nous y.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce texte-là, au point d'avoir envie de vous y consacrer
Parce que j'ai pas été un grand lecteur quand j'étais enfant, et quand j'ai découvert le théâtre, je me suis mis à tout lire. Et j'ai découvert Obaldia. Et j'ai aimé ces pièces à la folie, parce qu'il y avait un brin de moi là-dedans.
Mais commencer par la mise en scène, ça voulait dire que vous n'aviez pas confiance pour monter sur scène, vous ?
Pas du tout, non. Je faisais des études où j'avais des travaux de synthèse sur Marivaux, où je répétais des scènes, etc., où j'apprenais mon métier d'acteur. Et en même temps, il y avait des mises en scène, si on le souhaitait, avec des distributions où on prenait les acteurs qui étaient à l'intérieur du cours, et on montait des spectacles. Voilà. Et quand j'ai su ça, j'en ai tout de suite monté plusieurs parce que j'ai toujours été passionné. Ça vient en second après mon métier d'acteur, mais j'ai toujours été passionné par la mise en scène.
On va passer directement aux années
3000.
Aux années 90, 1990.
Ah, qu'est-ce que ça va être, Michel? Qu'est-ce que ça va être?
Il écoutait Johnny Hallyday. Ah ouais. Le feu. Et là, c'est le docteur qui commence dans les médias.
Absolument. En 90, vous commencez à la radio. Vous commencez sur Europe 2, puis France Info. Et vous recevez d'ailleurs très tôt une convocation du Conseil de l'Ordre.
Oui, le Conseil de l'Ordre, parce que l'Association nationale des journalistes d'information médicale n'avait pas vu d'un bon oeil qu'un médecin vienne. Vous parliez tout à l'heure, Bruno, du fait que je prenais le boulot des comédiens, mais là, ils se disent, oulala, il y a un médecin qui vient prendre le boulot des journalistes. Donc ils ont envoyé une lettre au président du Conseil national de l'Ordre des médecins, M. Louis René. qui m'a convoqué. Et là, je faisais sur moi, hein, je peux dire.
Parce que vous n'avez pas le droit.
Bah, c'est ce que je pensais. Et je suis arrivé, il m'a dit continuez. Vous faites très bien. Voilà.
Donc, Philippe Le Lièvre, vous écoutez à ce moment-là.
Sting.
Qui revient sur scène avec une comédie musicale à partir de février 2026 à la scène musicale qui sera en décembre dans Taratata. Disons. Mais pour l'instant,
quelle
il
audace.
Est sur un... ouais, il a osé.
Ciel Montmardi.
Oh, quel rapport ?
Je sais
pas.
Bah si, c'est pour vous. Vous faites votre première apparition télé.
Ah oui, c'est vrai.
Dans cette émission présentée par Christophe de Chavannes.
Tu sais quoi ?
Avec la Ligue d'improvisation française.
Et oui.
Nous sommes venus faire un immense canular.
Ah.
Avec où ils recevaient sur le plateau la femme, le mari et l'amant.
Non, mais je me souviens du canular, mais j'avais totalement zappé que c'était vous.
J'avais une autre coupe de douille. Hein. Ça, c'était okay. J'avais un coupe de cheveux à la verticale. Pour
le thème donc, c'était l'adultère.
Ouais.
Et vous vous êtes lancé comme ça en direct.
Alors, ce qui est drôle, c'est que De Chavannes voulait absolument connaître le conducteur. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez le dire? Et on lui disait...
Pourquoi vous parlez comme ça?
C'est de l'impro.
Parce que je suis excité par cette question. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne savait pas, puisqu'on improvisait. Mm. On avait le thème, c'était l'adultère. On savait quels étaient les protagonistes, le mari, la femme et l'amant. Mm. Et l'avocat qui arrivait après sur le plateau, en débarquant sur le plateau. Et donc, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Il était très, très, très inquiet. Et à la fois, ça a été un succès, mais énorme, gigantesque.
Énorme carton.
Tous
énorme.
Les matins, j'allais acheter à l'époque, je lisais Libé, donc en 89, oui. Et je pars chercher mon avec mes tongs. J'avais des tongs à l'époque, parce que je mets des Birkenstock, maintenant ils détestent ça.
Avec des chaussettes.
Non, laisse-moi tranquille. Et je pars acheter mon journal, donc tous les matins, et là, je suis... tout à coup, les gens m'arrêtent dans la rue, mais c'était Alain Delon. Enfin, je sais pas comment on appelait Alain Delon, mais en tout cas, c'était tout à coup, je suis passé de l'anonymat à ce truc incroyable. Il y a 11 millions de téléspectateurs, je crois.
Fou,
complètement
fou.
Dingue.
Laurence Perron nous a rejoint. Bonjour, Laurence, bonjour. Et merci de venir à ce micro. Journaliste au service politique de France Inter. Nous parlions tout à l'heure avec Philippe Le Lièvre et Michel Simès de la santé des présidents. Y a-t-il un contrôle de la santé des candidats à la présidence?
Non, pas véritablement. En fait, c'est le secret médical qui s'applique, comme pour tous les citoyens. Donc, je pense qu'ils ont tous des médecins, ils se font tous suivre, mais ils n'ont aucune obligation de publicité. C'est le secret médical qui s'applique.
Alors, il pourrait y avoir un secret médical avec simplement apte ou pas apte, sans dire de quoi il s'agit.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en politique.
Et donc, quand on évoquait le danger, le danger que psychologiquement quelqu'un ne soit pas prêt à...
Ah bah c'est une question qui est beaucoup posée. Vous avez pu le constater là dans les derniers épisodes rocambolesques de la vie politique française.
Et ce n'est pas fini.
Il y a des politiques qui mettent en doute la santé mentale. Alors c'est bien sûr plus de l'ordre de la rhétorique du président de la République, mais de facto, ça ne pourrait pas être constaté. Si éventuellement le président de la République était fou aujourd'hui, il faudrait que ce soit son entourage qui décide de l'empêcher. Parce qu'effectivement, dans la Constitution, on peut empêcher un président...
Quelle est la loi?
Eh ben, il y a l'article 7 de la Constitution, mais qui ne parle pas de santé, ni même de santé mentale, qui dit qu'un président empêché devrait être remplacé par le président du Sénat.
Oui.
Mais empêché, quoi. Empêché, pas en tout cas pour des raisons médicales.
Le secret médical...
Le secret médical s'applique, et d'ailleurs, celui qui l'avait rompu, le docteur Claude Hubert, le docteur de François Mitterrand, exactement, qui 8 jours... Après la mort de Mitterrand, sort le grand secret et révèle que depuis son élection, il se savait atteint d'un cancer et il explique que lui-même a falsifié les bulletins de santé qu'il produisait. Il a été condamné. Il a été condamné, je crois, à 4 mois de prison avec sursis, déchu de l'ordre national du mérite, de la Légion d'honneur et radié de l'ordre des médecins.
Radié de l'ordre des médecins.
Exactement.
Justement, est-ce qu'il y a un rythme? Ils doivent passer une visite médicale tous les ans,
Et alors, ils en passent.
Ils reçoivent pas le courrier de la CPAM pour dire venez.
Non.
Venez faire votre hémoculte et la recherche de sang dans les selles.
Et ben non, parce que, en réalité, c'est pas le code du travail qui s'applique. C'est un mandat on est élu pour un mandat de président de la République. Et ça n'est pas un métier. Donc, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous, les salariés, qui, si nous n'allons pas à la médecine du travail régulièrement,
On ne peut pas travailler. Est-ce qu'il y a plus de transparence à l'étranger? Parce que Trump en fait tout un pataquès.
Oh non, je pense que c'est exactement la même chose qui s'applique. Après, ça fait partie de la communication. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, au moment du Covid, le moment où Emmanuel Macron, qui ne publie jamais aucun bulletin de santé, contrairement à son prédécesseur François Hollande, se met en scène en disant qu'il a le Covid, mais qu'il va bien, il est en vidéo. C'est lui-même qui peut décider de le faire, mais je pense que Trump décide de le faire
c'est,
à des
après,
fins
c'est de, la com.
De politique intérieure et de communication.
Ouais, c'est de la com, comme ceux qui se faisaient filmer en train de se faire injecter le vaccin. COVID. Le vaccin contre le Covid, oui.
Exactement, le ministre de la Santé, notamment, voilà.
Et puis, il y a les bad buzz, les rumeurs. Brigitte Macron est victime d'une rumeur, même venant de l'étranger, et doit prouver, ou décide en tout cas de prouver que cette rumeur est fausse.
Alors ça,
fausse.
C'est très curieux. Ouais. Alors, c'est quelque chose auquel, en France... Alors,
c'est prêter le flanc à la rumeur, finalement.
Cette affaire est très bizarre, parce que en France, cette affaire a été relayée. Les personnes qui l'ont relayée ont été condamnées en première instance, relaxées. Voilà, on attend encore, hein, c'est pas terminé. Et effectivement, les époux Macron vont en justice aux États-Unis pour cette rumeur. Brigitte Macron serait son frère. Et ce qui est quand même particulier.
C'est Candace Owen, oui.
Sauf qu'aux États-Unis... les Macron vont être obligés d'apporter eux-mêmes la preuve que Brigitte Macron n'est pas un homme. Je ne comprends pas quel avocat leur a conseillé de faire cette chose-là.
Parce qu'ils ont fait un procès aux États-Unis, ils sont obligés.
Il faut prouver que tu es innocent.
Mais
pourquoi aller au procès, quoi ?
Et je ne comprends pas. Alors là, pour le coup...
Ce qui est intéressant, c'est que président de la République, c'est quand même la fonction ultime, avec une responsabilité, on n'a pas besoin de la décrire ici. Et pourtant, il n'y a aucune obligation de contrôler sa santé, vous l'avez très bien dit. En revanche, quand vous êtes chef d'entreprise, d'une grande entreprise, les conseils d'administration exigent que le président, directeur général, passe un check-up régulièrement. Ils sont envoyés dans les centres, dans des centres, dans des cliniques.
Parce qu'il y a des assurances qui le demandent.
Mais parce qu'il y a des assurances, et puis parce qu'ils ont une responsabilité.
Sur la tête
mais de c'est ce, aussi de parce qu'ils ont une responsabilité pour le fonctionnement de l'entreprise.
Quand le check-up n'est pas bon, ils doivent communiquer le contenu ou pas?
Non, parce que secret médical, mais en revanche, c'est probablement au PDG de décider si oui ou non il est.
En tout cas, c'est le conseil d'administration qui peut décider de le garder ou de
le président de la République. Et vous l'avez dit, il y a des profils quand même psychologiques qui sont, on va citer personne évidemment, mais qui sont quand même assez inquiétants.
Merci Laurence Perron d'être venue par ce studio. Je rappelle, journaliste au service politique de France Inter. Rendons un hommage, comme tous les jours, voici Emma Beaujean.
Bonjour, alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, Nagui, ça te concerne puisque j'ai décidé de rendre hommage à Interville.
Allez, Interville.
Évidemment, original gangster. Interville, c'est magnifique, c'est la France rassemblée, c'est un pub-bar avec une queue de cheval qui s'appelle Jean-Fred qui un jour a dit à Guy Lux, et donc en fait là, il y aurait une vachette qui leur courait après et qui serait déguisée en bigouden et le tout à Saint-Amand-des-Eaux, bien sûr. C'est l'héritage de tout ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus une vachette, c'est un mec déguisé en vachette, c'est plus Guy Lux, c'est Nagui, pas déguisé en Guy Lux, même si ce serait marrant. Je pense que si Nagui, tu essaies de te déguiser en Guy Lux, tu ressembleras à Roger Hanin. Navarro, j'écoute, c'est pas le sujet. J'adore Interville, c'est sublime. On y voit des villages entiers essayer de gagner, c'est beau, même si en fait toutes les missions, ils gagnent des points, à la fin ça sert à rien, ça se règle au mur des champions. L'épreuve de force finale, c'est donc une belle métaphore de la société finalement. Tout le village, donc toute la société se fait chier toute la journée à collecter des points qui sont en réalité dérisoires et c'est juste un concours de force entre trois hommes gâtés par la nature qui obtiendront toute la gloire. Hashtag les hommes. C'est donc voilà, présenté par Nagui, notre cher Nagui, bah, c'est top, ça lui permet de visiter la France. C'est donc ça un ibis, oh là là. C'est donc ça une barquette de marmelade. C'est donc ça le vrai bonheur. Il est content, il visite les régions et il en profite pour refaire son intermittence, le Nag. Je disais donc... Avant ça, il y avait une vachette, une vraie vachette qui participait à l'émission, mais c'était de l'exploitation animale. Alors, ils ont arrêté, c'est pas bien de promouvoir l'exploitation animale et le spécisme à l'antenne sur le service public. D'ailleurs, Nagui me confiait que, en fait, ils avaient pris cette décision lors du méchoui de la rentrée à France TV. Tu parles, un petit agneau délicieux, ça ouvre l'esprit. Mais faut dire que c'était hyper dangereux, hein. On rappelle que courir devant une vachette n'est pas un sport sans risque. De nombreux accidents surviennent chaque année. Reportage.
alors qu'elle avait une carrière toute tracée à la radio, bourrée de talent, belle-fille de Daniel Morin. Le 5 juillet de l'année dernière, le drame survient. Emma Beaujean nous reçoit chez elle, dans son 7 mètres carrés du 11e arrondissement. Elle nous raconte « C'était l'été, je participais à Interville. Et avec les habitants du Touquet, en fait, à l'époque, je sortais avec le petit-fils de Georges Pernou, le mec de Thalassa. Bon, c'est une longue histoire. Et après, en fait, je trouve que j'adore les bigorneaux. Bref, c'est pas le sujet. On était en pleine épreuve. Et vous savez, en fait, c'est celle qui consiste à courir sur un tapis roulant couvert de produits vaisselle habillé en costume traditionnel. Vous voyez pas ? C'est normal, c'est la description de 100% des jeux Interville. Dans le feu de l'action, en fait, j'ai glissé sur la culotte de Miss Pas-de-Calais qui traînait par terre. Et je me suis fait embrocher par la corne de la vachette jusqu'ici dans la gorge. Alors, heureusement, j'ai survécu, mais depuis, je parle comme ça. Donc, la radio, c'est terminé. L'ironie, c'est qu'en fait, la vachette, elle s'appelait Gitane. Voilà. C'est le prénom de la vachette, hein, vous pouvez vérifier. Et maintenant, c'est moi qu'on appelle comme ça, rapport à la marque de cigarettes. Voilà. Et j'ai lu dans la presse que Nagui avait payé ma chambre d'hôtel. C'est pas vrai. C'est faux. Il a pas payé non plus les soins à l'hôpital. Il a simplement payé l'option téléviseur dans la chambre. Elle était bloquée sur France 2, en fait. Donc, voilà, j'étais entre tout le monde. N'oubliez pas les paroles, pardon. Et taratata, je me suis tapé sa grosse tête en boucle toute la convalescence. En vrai, cet été, quand je suis retombée... Pas de chute. Cet été, quand je suis retombée sur le retour d'Interville, la vérité, c'est que je suis surtout retombée sur les étés chez papy et mamie en 2009. Je suis retombée sur les soirs après manger, quand je trempais un sucre dans le café de mes grands-parents. Je suis retombée sur l'excuse pour avoir le droit de se coucher un peu plus tard. Je suis retombée sur les plus jolis étés de ma vie et c'est à ça que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir
invité. Merci, Marc-Jean.
Emma Beaujean sur scène à Paris les vendredis à 21h au théâtre des Mathurins. Il n'y a pas de chute.
Et c'est super.
Mathurin.
Tanguy, de quoi vas-tu nous parler ?
De Le Cornu 2, la suite du 1 en l'attente de Le Cornu 3.
Michel Simès est sur scène, mise en scène par Philippe Leliev, c'est au théâtre Saint-Georges. On en parle jusqu'à midi et demi. La bande originale avec Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et nos invités Philippe Leliev et Michel Simès.
Oh oui.
France Inter. La bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Au théâtre Saint-Georges, ces représentations qui ont lieu du jeudi au
dimanche,
oui. Alors jeudi et vendredi à 19h. Samedi, il y a deux représentations, 16 et 21h. Et dimanche, c'est à 15h. Avec autour de Michel Simès pour l'écriture, Christophe Brun, Patrice Romeyenne et Nicolas Lombreras. Et pour ce qui est de l'interprétation, Michel Simès est entouré de Clémence Thioly, Philippe Vieux, Jean-Pierre Malignon et Philippe Dussault. Et ils sont tous médecin, alors soit généraliste, j'ai appris que c'est une spécialité maintenant quand on dit, ouais. J'allais dire, soit généraliste, soit des spécialistes, non, ils sont tous spécialistes. Même généraliste, c'est considéré
c'est
comme
pour,
une spécialité.
Pour pas dévaloriser le boulot de généraliste et de médecin traitant qui est tellement important. Ouais.
Voilà, et donc il y a un psy, un cardio et un chirurgien esthétique en plus de...
Un proctologue, tu veux vraiment pas.
C'est pas le cœur, c'est le cuisine.
C'est marrant, c'est la blague.
J'avais la première lettre.
C'est marrant ce subconscient là qui...
Gros mélange, espèce de trouille. D'où la nécessité d'aller voir un psy.
Ils ont tous, justement, tout part du psy, c'est-à-dire que le psy a un secret, un lourd secret. Et le problème, c'est qu'il se, voilà, il lâche un petit indice, hein, puis un deuxième, et ça devient une intrigue de savoir si oui ou non le président de la République, en tout cas le futur candidat, est en danger ou pas.
Absolument.
Pour le monde.
Et en fait, le psy a parlé à ses copains, comme le font les médecins en général, de son patient s'élève. Donc, ils savent tous qu'il a dans sa patientèle ce leader politique qui va, on va l'apprendre ce soir-là, se présenter à la présidentielle, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas, il n'a pas donné le diagnostic.
Oui. Et ils se demandent d'ailleurs si ou pas, en tant que médecin, ils doivent faire quelque chose ou outer, ou peut-être faire qu'il y ait un lanceur d'alerte quelconque, faire fuiter en tout cas pour éviter cette élection. Et puis, il y a une seule femme dans ce casting, c'est Clémence Thioly. Évidemment...
C'est la plus raisonnable.
Mais c'est la pure et dure.
C'est le médecin traitant.
Oui, c'est le médecin traitant qui a des principes, qui respecte l'éthique médicale, qui n'a pas de cadavre.
Mais qui elle aussi a des secrets.
Elle a des secrets, voilà. Elle a des petits secrets, mais elle représente finalement la bonne médecine, entre guillemets, parce que les autres restent des médecins, mais ils ont tous des défauts. Le chirurgien esthétique, on l'a dit, s'intéresse aux femmes et à l'argent. C'est une caricature, hein, parce que je vais avoir tous les chirurgiens esthétiques qui vont me tomber dessus. Le proctologue... Bah,
c'est une caricature de tout... Ouais.
Le proctologue, on l'apprend dès le début de la pièce, il a fait son coming out. Ouais. Donc, ça, voilà, c'est assez drôle. Et puis Philippe Vieux, Patrick, le psychiatre, lui, il est là, il a le cul entre deux chaises.
Il est même en dépression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments, il est au bout du rouleau.
Il y a des moments, il pète les plombs.
Non, c'est extrêmement drôle. Mise en scène par Philippe Lelièvre avec des moments de blind test. C'est pour casser le quatrième mur, parce que le public a envie forcément de réagir.
Le public chantonne, je crois. Je suis dans la salle. Mais il y avait aussi une volonté qu'il ne participe pas vraiment pour pas qu'on sorte de la pièce et qu'on sache plus très bien où on en est.
Et Michel, vous êtes fait
quand
un petit cadeau.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
J'ai suggéré ça à Philippe. Alors j'ai quand même quelques trucs qu'il a accepté, beaucoup qu'il a refusé, mais
non, c'est pas vrai, Michel. Non. C'est en fait nous avons fait un petit week-end tous ensemble de 4-5 jours.
Un séminaire.
Et c'est vrai que ça a été évoqué. Il chantait ça à table. Et pourquoi pas tout à coup ajouter cette chose dans la pièce. Donc j'ai trouvé le moment où on allait le mettre et il est merveilleux. Il aime chanter. Au début c'était pas vraiment en rythme, mais c'était pas très important.
Mais c'est juste.
Il chante juste. C'était pas très important que ce soit dans le rythme parce que ça reste un patron de bistrot. C'est pas non plus Johnny Hallyday qui est décédé.
Merci pour cette précision.
Il y a trop d'informations dans cette phrase.
Culture et info.
Pas de chute.
Qui était de même la
C'était bien de faire un point de Johnny parce qu'on
sait. Il a une montre de 1978, mais il a eu les actus depuis.
Juste un mot sur ces week-ends. Moi, je les connaissais pas, les acteurs. C'est Philippe qui a fait le casting. Et il fallait impérativement qu'on ait cette impression que c'était une bande de potes qui se connaissaient depuis des années. Il fallait créer quelque chose. Donc, j'ai invité tout le monde à passer 3-4 jours en week-end. Ce qui nous a permis de nous connaître, de nous rapprocher. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une réelle complicité entre nous et qui se voit sur scène.
Ah bon, on devrait faire ça, nous.
Week-end qui a eu lieu chez Jacky et Michel.
Jacky n'était pas là.
Voici Tanguy, passion.
Samedi, j'étais dans les loges d'un théâtre près de Grenoble, loin du centre-ville, à l'abri des balles et des vélos. J'attendais de monter sur scène quand soudain j'ai reçu une alerte BFM TV. Je regarde mon téléphone, y a rien. Je mets mes lunettes, c'est mieux. Plus rien. Par exemple, là, je fais semblant de lire un papier. En réalité, tout est improvisé. Sur le papier, il y a une future chronique d'Oldelaf qui traînait dans le bureau. Je suis fan de Bardella. Rien à dire, c'est un mec simple. Ah tiens, il a envie de rester en place après 2027. Donc samedi, j'ai chaussé mes lunettes et j'ai lu exclu BFM TV. Sébastien Lecornu n'annoncera pas ce soir la composition de son gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y arrivait tellement pas qu'on en était à faire des breaking news sur le fait qu'il ne se passait rien. C'est comme si on écrivait aujourd'hui le rappeur Jules n'a pas sorti d'album, contrairement à hier et demain, où personne dans l'équipe télé de Cyril Hanouna n'a prévu de se mettre ce mois-ci à la lecture d'un ouvrage de culture générale. Sébastien Lecornu, vous avez suivi, est redevenu Premier ministre après avoir démissionné. Il n'a pas eu le choix, Macron n'a plus qu'un ami, lui, et il doit être chrétien ou empathique, parce qu'on sent qu'il n'a pas du tout envie du job, mais qu'il le prend par charité. Les médias définissent comme un moine soldat. Oui. Sauf que sa croisade, c'est Macron. Faut aimer les cas désespérés. Je veux dire, le Gus est à moins l'infini d'opinions favorables. 110% des Français interrogés disent préférer se jeter nu sur un cactus que de penser à Macron. Il y a plus de gens qui aimaient Gilles de Rais au moment de son exécution pour meurtre d'enfant en 1440 que Macron aujourd'hui. Bref, si t'es moine soldat, instinctivement, tu choisis un autre combat. Et Lecornu, il est plus fidèle qu'un teckel qui sait que sa maîtresse lui prend la gamme premium en croquettes. Mais on le sent à bout. Sa santé mentale, un jour, sera étudiant en fac de psycho. Hier, il a déclaré si les conditions n'étaient plus réunies de nouveau, je partirais. Ensuite, Macron le renommerait. Ils peuvent tenir comme ça tous les deux pendant un siècle. Hein. À l'EHPAD, en 2053, Lecornu démissionnera de l'atelier Bridge. Macron viendra le chercher. C'est sans fin. Ces gens ne vont pas bien. Et en fait, la vérité, c'est que ça a été ardu de trouver des ministres parce que plus personne ne veut. Je veux dire, là, il a eu les derniers volontaires. Ça doit être des moines soldats aussi. Ils vont ouvrir un monastère et se battre dedans avec la purée de la cantine. Darmanin, Farandou, Nunez, Vautrin, ne retenez pas ces noms, hein, parce que d'ici 10 jours, c'est peut-être fini. Non, mais Rachida Dati est toujours là. Personne n'ose la sortir. Elle attend son procès pour corruption et recel d'influence. Donc là, elle prend ce qu'il y a à prendre. Hein. L'autre jour, ça doit être une thématique. Elle a participé au pot de départ en prison de Sarkozy. C'est une nouvelle tendance. Il y avait les départs à la retraite, les buffets de mariage. Maintenant, quand il y a un LR qui part en queue, ce qu'eux appellent la tradition, on fait un pot. Dati a pris les coordonnées du traiteur, hein, si jamais elle a fait le sien bientôt. Alors, sinon, surprise, est sortie de l'équipe Elisabeth Borne, dont la colonne vertébrale est moins solide que celle d'un trapéziste qui s'est raté. Elle avait tout fait pour rester dans la team, jusqu'à proposer de suspendre la réforme des retraites qu'elle avait elle-même fait passer. Dans la douleur, hein, elle a utilisé 4000 fois le 49-3 à l'Assemblée. Là, il est en réfection, tellement elle l'a usé. Tout ça pour revenir en arrière. Et c'est elle qui, il y a 4 jours, disait dans Le Parisien, il faut savoir écouter. En 2023, il y a eu 3 millions de gens dans la rue qui criaient contre cette réforme. Elle n'entendait pas. Là, elle l'entend. Mais c'est un miracle. La présence d'un esprit divin est enfin avérée. Tout ça pour vous dire que le naufrage du macronisme est crépusculaire. Ils sont 4 sur un bout de bois. Le radeau de la Méduse à côté, c'est la croisière Les Joyeux de la mer Égée, 12 jours, 13 nuits. Retailleau, lui, a planté le cornu. Il se prépare pour 2027. Marine Le Pen aussi, si elle n'est pas condamnée avant. Sinon, elle fera un pot de départ en prison. Parce que le secteur est en pleine expansion, le saviez-vous. Le cornu a dit qu'il n'a pris que des gens pas intéressés par 2027. Alors, pas l'année. Hein, il vise quand même pas des personnes qui ont prévu de mettre fin à leur jour en 26, mais l'élection. Bref, ça a stagné. On a patienté. Hier, j'ai reçu des alertes infos. J'ai pas pu les lire. Je vois rien sans lunettes, mais je pense qu'il y avait écrit exclu BFM TV RAS, puis exclu BFM TV La Vache, on se fait yèche, puis exclu BFM TV. Eh ben, ça y est. Mais il a fallu que l'on ponde ça un dimanche soir. Ça nous a pourri la fin du week-end. Et voilà, finalement, vous voyez, le cornu 2, bah, c'est parti. La suite de Le Cornu 1. C'est un monsieur qui s'en va et revient et s'en va. C'est une brise d'automne. Le premier ministre Erwick. Hein, je pense que sa femme, après être allée aux toilettes, appuie dessus. Et hier, je l'ai vu et il avait l'air toujours aussi sombre. Or, moi, je suis assez branché développement personnel. Je lis un livre actuellement qui s'appelle Soyez la femme de vos rêves. Au départ, c'était pas forcément pour moi, mais ça m'a aidé. Je me suis découvert une passion pour les collants et pour Ryan Gosling. Je parle de mes désirs au grand jour. Je suis une dame très libre. Et je pense que Sébastien Le Cornu n'est pas heureux. Voilà, il le dit, mais personne ne l'entend. Hier à Matignon, il a émis des signaux de fumée qui, une fois traduits, formaient la phrase « JPP, venez me chercher ». Lisez au fond du regard de Le Cornu, on n'y voit que de l'effroi. C'est un homme qui n'en peut plus. C'est pour ça qu'il a la même absence de joie que la momie de Ramsès II. Ramsès II, vous voyez, la suite de Ramsès I, j'imagine qu'il a dû proposer de former un gouvernement et ça n'a pas pris. Enfin, c'est toujours la même histoire. Samedi, dans les loges de ce théâtre près de Grenoble, alors qu'au loin on entendait les kalachnikovs des dealers et le bruit du thé matcha versé dans les bols en terre cuite des barbobos, ben, j'essayais de faire le vide. Avant la scène, ça fait du bien de faire le vide. Ça n'a pas été compliqué, il m'a suffi de lire les alertes info qui disaient rien pour l'instant. Allez, il reste 10 jours à travailler, je le dis pour les ministres, avant Le Cornu 3.
Merci.
Tanguy sur scène, attention, ça se rapproche, je le dis, c'est à Paris, théâtre de la Gaîté, rive gauche.
Au théâtre Saint-Georges se joue la pièce Secret médical avec un S, même s'il est entre parenthèses ce S. Michel Simès avec un S, Philippe Dussault avec deux, Clément Cioli, Philippe Vieux avec un X et Jean-Pierre Malignon.
C'est super bon à la fin de la vidéo.
D'autres événements culturels.
Oui. Waouh, quel est le déco et tout. Quel est le point commun entre Thierry Frémont, Olivier Sitruk ou encore William Mesguich?
Ah, il joue hyper mal.
On leur dira.
Olivier sur scène, il fait deux pièces en même temps.
Mm-hmm.
Non, c'est pas ça?
C'est ça, c'est la bonne réponse, absolument. Comme
Thierry Frémont.
Non, mais parce qu'il dit Olivier sur scène, il fait deux pièces en même temps, c'est pas le point commun.
Je sais qu'Olivier Sitruk joue au théâtre Bruyère et.
On va l'expliquer en
fait.
Thierry Frémont et Olivier Sitruk, ainsi que William Mesguich, font partie de ces comédiens qui, en cette rentrée théâtrale, enchaînent. Commençons par Olivier Sitruk, donc, qui est donc sur scène au théâtre La Bruyère avec la pièce Dolores à 19h. Il finit à 20h40, il prend sa trottinette électrique. Il va pas très très loin, il va au théâtre de l'œuvre, il a calculé, il lui faut quelques minutes. Et à 21h, il est sur scène pour Killer Joe. Thierry Frémont, même chose, à 19h au théâtre de l'œuvre pour la pièce 1 heure à t'attendre. Durée de la pièce 1h20, ensuite il prend son vélo, il va au théâtre Héberto, il va jouer le repas des fauves. En gros, et puis il tourne une série en parallèle, ce qui fait que parfois il y a des représentations où il n'est pas vraiment là, ou alors il doit enchaîner.
Il n'est pas vraiment là.
C'est ce qu'on lui reproche.
Il est là ou il n'est pas là.
Il n'est pas vraiment là, il se fait remplacer, pardon, il ne peut pas jouer la pièce, il accepte certaines dates de lâcher la scène. Mais c'est compliqué parce qu'il y a un personnage et une équipe.
Sur l'attend.
Il confie avoir une excellente hygiène de vie, faire très très attention, être une sorte de sorte de gourou de l'hygiène de vie. Olivier Sitruk, lui raconte comment c'est pas simple non plus d'enchaîner, alors que le rôle numéro 2 lui demande un peu moins de préparation psychologique pour rentrer dans le personnage, mais le risque là-dedans, pour le producteur, pour le théâtre aussi, c'est de la fatigue, c'est du surmenage, c'est une blessure aussi, on ne sait jamais, et c'est une incapacité à tenir la scène.
Philippe. Jeune papa en plus.
Oui,
Philippe, vous, vous avez, j'imagine, déjà...
En tout cas, ils ont leurs heures. C'est...
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Tu vois ce qui te pend au nez, Michel? Un petit 19h, un petit 21h. Mais on essaiera d'aller à la Bruyère, tu pourras y aller à pied.
Ça vous est arrivé d'enchaîner comme ça plusieurs pièces ou pas?
Non, jamais.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas présenté. Je l'aurais fait volontiers. Ça ne s'est pas présenté. Et à chaque fois... Ça s'est présenté quand je jouais Givré à l'époque, mais ça durait 1h40 et je pouvais pas doubler.
J'ai vu la pièce et vraiment, on peut pas imaginer qu'après vous puissiez faire autre chose.
Non, c'était déjà quand il y avait matinée soirée, c'était terrible. Mais non, c'est chouette, c'est formidable de pouvoir jouer deux pièces dans la même journée.
Justement,
ça se faisait beaucoup dans les années 60, dans les cabarets. Et c'est Francis Blanche qui allait dans tous les cabarets, qui allait saluer avec tout le monde. Il attendait la fin du spectacle, il prenait la main du mec et il saluait avec lui.
Justement, Michel enchaînait matinée et...
Non,
mais quand vous le faites déjà le samedi?
Le samedi...
Vous changez pas de théâtre, mais...
Non, ça va.
Qu'est-ce que vous faites entre les deux pièces?
Je m'emmerde un peu.
Là, il y a Philippe qui vient de faire un...
Oui, oui. Il change ses couches.
Non, j'en ai plus. Mais j'ai deux, trois heures à combler. Et le problème, c'est que j'habite loin du théâtre, donc je peux pas rentrer chez moi. Donc, au début, je me baladais un peu dans le quartier. Puis, bon, j'ai fait le tour maintenant. J'ai la chance d'avoir Philippe Dussault qui habite pas loin, qui me prête les clés de son appart pour que je puisse aller. Ce que j'ai besoin de pioncer un petit peu, d'avoir une petite.
Et dans la loge, c'est pas possible.
Et dans la loge,
si je t'ai dit d'acheter un petit futon.
Je vais probablement acheter un petit matelas de yoga pour m'allonger. Il faut se reposer un peu entre les deux et puis reprendre de l'énergie parce qu'en fait, l'énergie, vous l'avez beaucoup donné à 16h, et les gens qui viennent le soir, il faut leur donner ce qu'ils veulent.
Autre question, on cherche un livre, ou plutôt un abécédaire, publié récemment, publié chez Fayard, c'est un indice. Son autrice, discrète, plus ou moins discrète dans les médias, avait sorti en 96 ses mémoires, ça avait été un succès en librairie. Elle a 91 ans.
C'est politique ?
Mais quel milieu ?
Elle n'est pas une personnalité politique, mais en tout
cas... Comédienne, chanteuse ?
C'est une comédienne-chanteuse.
Ah.
Comédienne-chanteuse.
De 91 ans.
Mireille Mathieu.
Lynn Renaud.
Judith Magre. Non plus. Une icône française.
Nana Mouskouri.
Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot, bravo.
Oui, chez Fayard.
L'abécédaire de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, militante pour la cause animale, qui estime notamment que la France a besoin de la droite, le seul remède à l'agonie du pays.
Beaucoup de points communs avec Nagui, quand même.
Elle livre ainsi, à travers cet abécédaire, sa vision de la France, ses souvenirs aussi sur des acteurs qu'elle a pu rencontrer. Elle est plutôt bienveillante avec Belmondo, un peu moins avec Mastroianni. Une façon aussi de continuer à exister dans l'actualité politique, justement, faire de la politique. Est-ce que ça vous tente, Michel Simès? Vous avez été nommé ambassadeur santé des Jeux Olympiques de Paris par Tony Estanguet, qui était à la tête du comité d'organisation des JO. Vous allez me dire, non, la politique, ça ne me tente pas, mais est-ce que vous n'en faites pas déjà?
Non, j'en fais pas, mais je fais de la politique à travers ce que je peux dire. J'ai des convictions. Voilà, j'ai convictions que j'exprime sur notre chaîne santé mieux qu'on vient de lancer sur Insta. Je dis ce que j'ai à dire, mais si vous voulez, vu l'espérance de vie d'un ministre aujourd'hui, je cherche pas un CDD, donc j'ai un peu de boulot déjà et merci.
Oui, mais on pourrait se dire que peu importe l'espérance de vie, c'est le bien commun, c'est se dire qu'il faut des gens peut-être de la société civile.
Oui, mais quand vous avez des convictions et vous voulez les mettre en place, vous voulez un peu de temps devant vous. Si c'est pour rester 15 jours, 3 mois.
Ça veut dire que
mois,
si vous aviez du temps devant vous, vous pourriez y aller ?
Ça y est, elle m'a piégé. Oui.
Non.
Non. Ah. Non, je déconne. Non, oulala.
Oulala.
C'était une plaisanterie. Voilà. Et puis j'ai pas envie qu'on. On me pose très souvent la question, est-ce que je voudrais être ministre de la Santé ? J'ai pas envie qu'on aille chercher des trucs que j'ai pu faire à la maternelle parce que j'ai embrassé une petite fille sur la joue alors que je lui ai pas demandé son avis et tout, parce que c'est, si vous voulez des emmerdes, je pense qu'il faut faire de la politique et j'ai pas envie d'emmerdes et je suis très bien comme ça et ça me va très bien. Ça n'empêche pas de m'exprimer sur tout ce que j'ai à dire sur la médecine.
Est-ce que vous, Philippe, vous avez eu à coacher des hommes politiques?
Non. Voilà, fin de... Non, ça, on ne l'a jamais proposé.
Oui, parce qu'ils ont recours
des patrons,
à
des
coaching.
Mais non,
ils prennent des journalistes ou des acteurs pour faire du coaching?
Ça dépend, parce que journaliste, ça devient de plus en plus compliqué, je crois, puisqu'ensuite...
Mais des acteurs...
C'est reproché aux journalistes d'avoir coaché.
Juste titre.
Il y a beaucoup de journalistes à la retraite qui le font.
Voilà, c'est ça. Il ne faut plus exercer.
Et qui ont monté leur petit cabinet.
Avant de parler de la retraite, parlons d'actualité. Théâtre Saint-Georges, donc, cette pièce Secret médical qui est déjà un énorme succès. Donc, à vous de vous précipiter et de trouver des places pour aller applaudir Michel Simès, Clément Scioli, Philippe Dussault, Philippe Vieux et Jean-Pierre Malignon dans la mise en scène de Philippe Lelièvre. Les tournages de C'est qui le chef sont terminés ou se poursuivent?
C'est fini, ça a été fini en juin à Lille, on a tourné.
Ça passera sur France 3, vous êtes aux côtés de Bruno Solo. Et d'Alice de Bellecour.
Ouais, c'était génial. Le tournage était top. Et là, je joue. Alors, c'est quand même le hasard. Je joue un chef cuisine.
Après le resto, le chef de la cuisine.
Je joue un chef cuisinier. Voilà. J'applique mon CAP que j'ai passé.
Oui,
il y a
vous l'avez
pas
passé.
Longtemps.
Vous l'avez passé,
CAP
de
cuisine, ouais. Et voilà, j'applique tout ça. Et ça passera. Je sais pas. J'ai pas les dates de diff encore.
Non, nous non plus.
Et à la fois, petite anecdote. Toute la distribution, y compris Michel, donc, ce sont d'excellents cuisiniers. Mais des cuisiniers incroyables. C'est-à-dire que ce qui les a réunis aussi quand on a fait notre petit week-end, c'est qu'ils ont
le
parlé
plaisir
de
la bouffe
du matin au soir.
Et on a un groupe WhatsApp sur lequel on s'envoie nos recettes.
Oui, c'est sublime. Moi qui ne sais pas cuisiner, je suis vraiment tombé au bon endroit.
La stagiaire, énorme succès avec la stagiaire aux côtés de Michel Bernier. Bravo pour ça, en tout cas.
Merci. Merci à elle.
Le dernier épisode a été diffusé le 30 septembre dernier. Un énorme succès. C'est vraiment le dernier épisode ou c'est le dernier de la saison?
C'est le dernier de la saison, puisque la saison, que je ne me gourre pas, la saison 11, se termine dans 10 jours.
Le tournage. Donc vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous êtes demandé d'ailleurs si vous seriez ou pas de la distribution au Théâtre Saint-Georges? La question s'est posée ou
oui, la question, Michel voulait que je fasse un rôle. Je lui ai dit, écoute, c'est gentil comme tout, je devais faire le proctologue, c'est ça. Une très belle distribution, mais il fallait que je m'occupe vraiment de Michel, pas comme un enfant, mais il fallait que j'ai un œil sur lui constamment, et c'était pas possible en jouant.
Cette bienveillance a fonctionné, en tout cas. Secret médical au Théâtre Saint-Georges. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour nos invités hypochondriaques qui ont bien compris en découvrant la pièce Secret médical qu'on ne pouvait avoir confiance dans aucune catégorie de médecins. Du coup, sans psy, sans généraliste, sans chirurgien esthétique. Et oui, Nagui, sans proctologue. Comment on se soigne? On verra ça à l'occasion du séminaire prévu la semaine prochaine à l'auberge. Jackie et Michel, désolé pour les futurs invités de la bande originale qui aimeraient avoir le même accueil parole de l'AF qui ce matin avait confié toute l'équipe de Debout sur le 5. Alors, je préviens Arnaud de Pléchin et Nadio Tereskiewicz demain.
Nadio.
Pardon? J'ai dit Nadio?
Nadio qui vient à la radio.
Elle vient son frère.
Elle sera là.
Et demain, elle sera accueillie par Michel Sardou, Jean-Luc Lahaye, Francis Lalanne. Vous voyez qu'on a croisé à l'occasion la semaine dernière du séminaire chez Jackie et Michel. Désolé pour Michel Simès qui vient de découvrir qu'il fallait bosser pour jouer au théâtre. Alors, Michel, faut pas généraliser non plus. On a reçu récemment Pierre Arditi et François Berléand. Je suis pas sûr qu'ils connaissent le mot boulot. J'en parlais avec eux la semaine dernière à l'occasion d'un séminaire, mais je peux pas vous dire où c'était.
Merci Philippe, merci à Michel. Merci. Demain, en effet, nous parlerons de Deux pianos, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, avec lui et Nadia Tereskiewicz, qui seront nos invités. Oui.